Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été tué par les forces françaises au Mali cette semaine. C'est le ministère des Armées qui l'annonce. Nous reviendrons évidemment sur cette opération qualifiée de succès majeur par Florence Parly. Vous entendrez ensuite le témoignage d'un policier évoquer le racisme dans sa profession. Ce samedi, des appels à manifester sont lancés un peu partout en France contre justement le racisme et les violences policières. Les règles assouplies dans les EHPAD ce week-end, plus de visites, oui, mais toujours avec autant de consignes sanitaires, vous le comprendrez. Et puis dans cette édition, nous irons au Mexique où l'épidémie de Covid-19 s'étend et où les chiffres sont trompeurs. C'est un coup dur que vient de porter l'armée française au groupe djihadiste au Sahel. Le chef d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué mercredi dernier lors d'une opération dans le nord du Mali. Le ministère des Armées l'annonce et la ministre Florence Parly évoque des coups sévères portés au groupe terroriste dans la région. Récit de cette opération avec Nathalie Hernandez.
C'est à une centaine de kilomètres à l'est de Tessalit, au nord Mali, que les hélicoptères et les troupes au sol ont délogé et tué l'Algérien Abdelmalek Droukdel, qui était à la tête d'ACMI depuis 2007. Il commandait l'ensemble des combattants d'Al-Qaïda d'Afrique du Nord et de la bande sahélienne, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un des principaux groupes terroristes actifs au Sahel. Plusieurs de ses proches collaborateurs ont aussi été neutralisés, dont le coordinateur de la propagande du mouvement, précise l'état-major des armées. Un des djihadistes a lui déposé les armes et s'est rendu. C'est un succès majeur, écrit sur son compte Twitter Florence Parly, qui annonce également qu'une précédente opération au nord de Gao, cette fois contre l'État islamique au Grand Sahara le 19 mai dernier, a permis de capturer un vétéran du djihad, Mohamed El Mrabat, l'un des cadres importants de l'EIGS. Depuis le sommet de Pau en janvier dernier, les forces françaises de Barkhane sont passées à plus de 5000 soldats déployés sur le terrain. Aux côtés des armées des pays du G5 Sahel, elles ont multiplié leurs offensives.
C'était Nathalie Hernandez. Deux semaines après la mort de George Floyd aux États-Unis, un homme de 46 ans asphyxié par un policier, de nouveaux rassemblements outre-Atlantique sont prévus ce samedi et notamment une manifestation monstre contre les violences policières à Washington, prévue à partir de 20h aujourd'hui, heure française. En France également, les mobilisations se poursuivent contre le racisme et les violences dans la police. Ce samedi, les rassemblements parisiens devant l'ambassade américaine sont interdits. Les forces de l'ordre évoquent la crise sanitaire en cours. Force de l'ordre mise en cause dans un article cette semaine du site d'information Street Press. Un article qui évoque une page Facebook regroupant des milliers de policiers. Une page sur laquelle sont écrits des messages racistes, des messages insultants. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a saisi la justice face à ce qui nourrit un peu plus l'idée d'une police raciste dans notre pays. Et ce n'est pas le policier qu'a rencontré Margot Stiff qui va contredire cette idée. Il travaille en Ile-de-France et il le constate tous les jours. Ce policier a choisi de se confier anonymement.
Ce policier, que nous appellerons Samir, a commencé sa carrière il y a 10 ans dans la police nationale. Il est d'origine maghrébine et pour lui, les remarques racistes ont commencé dès ses premiers jours dans la police.
Quand on vous traite de bougnoule le premier jour de votre affectation, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens d'un collègue, quand j'étais plus jeune, qui disait qu'il refusait de serrer la main aux policiers noirs et arabes, parce que pour eux, ils n'avaient rien à faire dans l'institution. Je bouillonne au fond de moi, mais le problème, c'est que j'aime mon métier, mais j'aime pas ce que certaines personnes en font. C'est inquiétant parce qu'on se dit, quelle sera la prochaine étape ?
Des remarques racistes qui se voient aussi sur le terrain. Ils constatent par exemple que les jeunes noirs ou arabes sont contrôlés beaucoup plus souvent que les autres.
Tous les jours, je le constate, certaines personnes en fait sont contrôlées de plus en plus et moi-même, je suis contrôlé. Je me suis fait contrôler pendant le confinement en faisant les plus bêtes des choses en fait. Je descendais mes poubelles. On a attendu que je le passe le pas de ma porte pour me contrôler. Quand j'avais mon uniforme, j'ai plus sur mon front marqué policier quoi. Je reste un maghrébin et je suis contrôlé au même titre que eux.
Samir a pensé plusieurs fois à quitter la police, mais je veux mener le combat jusqu'au bout, dit le jeune homme. Faire honneur aussi à ses grands-parents qui ont combattu pour défendre la France.
Gilles Legendre va-t-il rester à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale ? Déjà critiqué, il pourrait faire les frais d'une note révélée hier par l'hebdomadaire Marianne. Gilles Legendre y fait ses recommandations à Emmanuel Macron pour un éventuel remaniement. Et cela passe très mal en interne, Rosalie Lafarge.
Gilles Legendre plaide pour un gros changement de gouvernement et pour Matignon, il pointe plusieurs options, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, mais visiblement pas un député de son groupe, aucun candidat crédible, voilà les mots qui sont attribués au patron des marcheurs. Et ça, ça fait se délier les langues au sein de l'REM, même chez ceux qu'on dit loyaux. Il est censé être notre tête visible, il est à peine audible, tacle un député. Le problème de Gilles, c'est son manque d'incarnation, enchaîne un autre. Ses boulettes s'accumulent et deviennent des boulets pour le groupe, tranche un des fidèles. Un groupe qui se délite, plus de 30 députés sont partis en 3 ans. Il fait tout pour les retenir. Il a un des boulots les plus ingrats de la 5e République, nuance certains, mais ils sont de moins en moins nombreux à le défendre. Ses relations avec le Premier ministre ne sont franchement pas bonnes et c'est un handicap pour la majorité, admet un élu. Elles sont meilleures avec le président de la République, rétorque l'entourage du parlementaire appuyé par l'Élysée. De toute façon, Gilles Legendre est en poste. Il a été réélu largement à la tête du groupe et n'a aucune raison de partir, sauf peut-être si on lui propose autre chose. Il se verrait d'ailleurs bien, paraît-il, ministre des relations avec le Parlement. C'est encore ce que laisse entendre cette note révélée par Marianne hier. Absurde, tranche un macroniste. Il est contesté chez nous, mais surtout détesté par tous les autres groupes, appuie ce député. Selon lui, avec son tweed et ses mocassins à gland, Gilles Legendre passe pour une incarnation de la vieille droite recyclée en LREM. Aux relations avec le Parlement, il n'a aucune chance.
Il précise donc dans un message adressé aux parlementaires, Gilles Legendre estime que l'article publié dans Marianne comporte de nombreuses contre-vérités et interprétations tendancieuses. Il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Y aura-t-il des visites pour la fête des mères demain dans les EHPAD? Avec le recul de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a annoncé que les règles qui encadrent les visites étaient assouplies. Mais dans les faits, il semble que bien des établissements pour personnes âgées préfèrent jouer la prudence, constat fait par Tara Schlegel.
Dans cet EHPAD public situé en Dordogne, dans lequel il n'y a eu aucun cas de Covid, les visites vont rester très encadrées. Eric et Nadine, dont la mère est résidente, ont dû se plier à des règles très strictes.
Une visite de 30 minutes tous les 15 jours environ, qui sont derrière une vitre, une baie vitrée ou du plexiglas à distance, sachant que ma mère est atteinte d'une maladie de Parkinson très avancée et qu'elle ne peut pratiquement pas parler à voix haute. Donc, en fait, on n'entend absolument pas ce qu'elle nous dit.
Il y avait un banc qui était tourné à l'envers derrière nous, et on ne pouvait même pas s'y appuyer contre. Et mon beau-père, qui a 90 ans, c'était à l'ombre, mais enfin, quand il faisait chaud, il a souffert, quoi. C'était vraiment des conditions assez, assez compliquées. En plus, il est un petit peu sourd, donc à une distance de 1 mètre 50 qu'on doit laisser normalement, mais avec des éléments entre, c'est quasiment impossible de communiquer.
Rien ne va vraiment changer car le protocole initial s'impose toujours aux EHPAD, malgré l'annonce du gouvernement, affirme Nadine.
Ce que nous disent les directeurs des établissements médico-sociaux, c'est que par rapport à cette annonce du ministère de la Santé, en réalité, derrière ça, il y a un petit protocole derrière qui n'est pas inscrit dans l'annonce qui dit qu'en fait, dans tous les cas, on doit absolument privilégier les visites à l'extérieur et qu'on ne doit pas faire rentrer les gens dans les chambres, etc. Vous voyez, il y a des conditions restrictives qui n'apparaissent pas dans l'annonce du 1er juin.
Le gouvernement semble donc avoir communiqué un peu trop vite, car à l'échelle nationale, le CINERPA, l'un des syndicats de résidence pour personnes âgées, demande un peu de patience pour pouvoir organiser progressivement un retour à la normale.
Il n'est pas encore question de retour à la normale, en revanche, pour les pays d'Amérique du Sud en ce moment, et notamment au Mexique, où près de 13 000 personnes sont mortes de la Covid-19, selon les chiffres officiels. Et malgré le flou et la peur, les activités économiques reprennent, Emmanuel Stills.
Les rues de Mexico sont à nouveau animées, certains commerces rouvrent et le président Andrés Manuel López Obrador est reparti dans l'une de ses habituelles tournées à travers le pays. Son gouvernement a baptisé « nouvelle normalité » ce retour aux activités, alors que l'épidémie ne décline pas. Ces derniers jours, plus de 3000 nouveaux décès étaient annoncés, semblant indiquer une accélération de la contagion. Mais le gouvernement affirme qu'il s'agit d'une actualisation des chiffres des dernières semaines. La progression du virus reste difficile à cerner au Mexique, tant le niveau de dépistage est faible. Miguel Betancourt, président de la Société mexicaine de santé publique, considère, à l'instar d'autres spécialistes, que le pays est en train de bouger dans le flou.
Lo más peligroso es que se están tomando decisiones con base en poca información.
C'est risqué car les autorités prennent des décisions en se basant sur des données incomplètes. On navigue à l'aveugle et on envoie à la société l'idée erronée d'une épidémie sous contrôle, ce qui complique les actions de prévention.
Dificulta las acciones de contención de la
epidemia. Depuis plusieurs semaines, la surmortalité est pointée du doigt par la presse, des décès qui ne sont pas classés officiellement Covid. Spécialisée dans l'analyse des données, Sarai Aguilar fait partie de ces chercheurs qui ont épluché les certificats de décès datant d'avril et mai dans la ville de Mexico.
Nous avons détecté 7200 décès dus au coronavirus, alors que les autorités ne reconnaissent que 2139 morts.
Il y aurait donc trois fois plus de morts dans la capitale que ce qu'indiquent les chiffres officiels. Des données troublantes alors que la ville est déjà en mouvement et que la nouvelle normalité s'étend dans tout le pays.
C'était Emmanuel Stills depuis Mexico pour France Culture. Quelques mots de la météo qui nous attend ce samedi en France métropolitaine. Des averses du Poitou-Charentes jusqu'à l'Alsace, des éclaircies ailleurs et 15 degrés à Lille et à Strasbourg. Comptez ce matin 18 à Paris, 25 à Perpignan.